Les séminaires du Collège de France.
On va reprendre pour cette toute dernière séance. Et j'aurais remercié très vivement Anne Marchand d'avoir accepté de venir faire une présentation des travaux du GISCOP, qui est le groupe d'intérêt scientifique de recherche sur les cancers professionnels en Seine-Saint-Denis. Et si j'ai demandé à Anne d'intervenir aujourd'hui, c'est que c'est un groupe scientifique, un groupement scientifique tout à fait original, au sens où c'est vraiment de et ce que va nous montrer Anne, j'espère, c'est comment on fait de la recherche vraiment qui respecte tous les canons de la recherche académique, mais qui en même temps pose des questions, enfin construit des problématiques qui sont vraiment tout à fait originales et qui produisent des données et qui démontrent tout l'intérêt de prendre en charge d'une certaine façon la question des maladies professionnelles. Donc c'est dans un département qui est le plus touché. Il existe deux types de GISCOP. Le plus ancien, c'est le GISCOP de Seine-Saint-Denis. Il en existe également un dans le 84 à Avignon, qui fonctionne sur les mêmes principes. Et c'est vraiment une expérience tout à fait originale, très riche, et qui devrait être étendue à l'ensemble des départements ou en tout cas des régions. Merci beaucoup Anne, qui est donc sociologue et historienne au GISCOP et qui est une des grandes spécialistes de la question de la reconnaissance des maladies professionnelles en France. Merci beaucoup.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici parmi vous. Et je tiens tout d'abord à te remercier, Nathalie, pour ton invitation à venir présenter mes travaux sur les ressorts de l'invisibilité des cancers professionnels ici au Collège de France. Et j'ai à ce moment une pensée pour une personne qui nous réunit toutes deux indirectement, une chercheuse qui a ouvert le champ de la recherche en sociologie sur les maladies professionnelles avec son livre pionnier édité en 1991 à la Documentation française et auprès de laquelle nous avons, à des moments différents, travaillé et beaucoup appris. Je veux parler ici de Annie Thébaumoni, que tu as beaucoup cité, Nathalie, dans ton intervention. Je voulais également te remercier pour ton choix de consacrer les deux dernières séances de cette chaire santé publique aux effets du travail sur la santé et de subvertir ainsi des frontières instituées qui séparent l'espace dit de travail de l'espace dit de vie. Et c'est suffisamment rare dans nos champs de recherche pour être ici salué. Comme le rappelait Giovanni Prete la semaine dernière en s'intéressant au cancer pédiatrique professionnel, ce cloisonnement institutionnel, juridique, scientifique empêche de penser la globalité, de penser la santé des individus et des populations dans leur globalité et laisse dans l'ombre de nombreux facteurs d'inégalité sociale. Ce cloisonnement, je tiens juste à le rappeler ici, n'a pas toujours existé. Et l'historien Thomas Leroux en a reconstitué la genèse en France au carrefour des 18e et 19e siècles en lien avec le développement industriel et il observe ce qu'il nomme l'effacement progressif du corps ouvrier dans les préoccupations sanitaires et politiques. Se construit alors une frontière entre ce que l'on nommait l'hygiène industrielle et l'hygiène publique, qui, pour reprendre une formule de l'historienne Geneviève Massard-Guilbeault, s'affirme alors comme l'hygiène d'une partie seulement du public, ignorant ce qui se déroule dans l'espace de travail et pour les populations laborieuses. Alors, s'il existe aujourd'hui une visibilité nouvelle pour les accidents du travail mortels, pour la mort au travail, grâce notamment au travail d'interpellation systématique réalisé par Mathieu Lépine, aux mobilisations syndicales et à celles des familles des victimes, comme le collectif Famille Stop à la mort au travail, la mort par le travail, par contamination lente, par empoisonnement, pour reprendre la terminologie du début du XXe siècle, je vous montre ici une brochure de 1901 de ce qui était l'ancêtre du ministère du Travail, l'Office du Travail, peine, elle, à se faire reconnaître. Et cela peut sembler paradoxal dans un contexte où les alertes et les mobilisations environnementales connaissent un renouveau. Elles ne contribuent pas toujours pour autant à éclairer ce qui se déroule au sein de l'espace productif pour les salariés, les premiers à être exposés à ces différents toxiques que l'on peut retrouver ensuite dans l'environnement. Donc en replaçant, Nathalie, la question des effets du travail sur la santé au cœur des travaux en santé publique, tu permets d'éclairer ce qui demeure le plus souvent un angle mort des approches en santé, comme si les lieux de travail n'étaient pas aussi des lieux de vie, des lieux où l'on passe une grande partie de son temps quotidien. Et je t'ai bien entendu mardi dernier, et je ne pense pas être la seule, plaider pour une chaire consacrée à la santé au travail. Je vais donc m'intéresser ici aux différents ressorts de l'invisibilisation des cancers professionnels, des cancers liés à l'activité habituelle de travail. Alors, comme vous le savez sans doute, et je m'appuie ici sur les dernières données communiquées par l'INCa, l'Institut National du Cancer, le cancer s'apparente à une véritable épidémie, et aujourd'hui en France, près de 4 millions de personnes vivent avec une pathologie cancéreuse. Plus de 400 000 personnes sont nouvellement diagnostiquées chaque année d'un cancer. L'incidence du cancer est en augmentation constante, elle a même doublé depuis les années 1990. La pathologie cancéreuse est également la première cause de mortalité en nombre, avec de très fortes inégalités selon le sexe, selon les localisations, selon les catégories socio-professionnelles aussi, et selon une variété de facteurs qui sont déjà largement documentés, et loin de se résumer à un événement biologique qui toucherait tout le monde de la même façon. La pathologie cancéreuse, à l'instar de tous les autres thèmes abordés dans cette chaire, sur les semaines précédentes, est fortement insérée au sein de rapports sociaux très inégalitaires. La lutte contre le cancer est affichée de longue date comme une priorité de santé publique, mais cette approche minore le rôle du facteur professionnel. Ainsi, les campagnes de prévention sont exclusivement centrées, dans le cas du cancer comme pour d'autres maladies, sur la modification des comportements dits individuels. Mais en pointant la responsabilité des seuls individus, ces campagnes laissent dans l'ombre d'autres acteurs et leur part de responsabilité, celle de l'État régulateur, notamment face aux toxiques cancérogènes, celle des employeurs responsables des conditions de travail dans leur entreprise et de la préservation de la santé et de la sécurité au travail de leurs salariés. Pourtant, le rôle des conditions de travail dans le développement d'addictions est bien documenté. La MIDELCA, par exemple, mission interministérielle de lutte contre les drogues et les addictions, l'a encore relevé dans un récent rapport. Le tabac, l'alcool, les psychotropes sont mobilisés aussi pour tenir au travail face à des conditions pénibles ou pour répondre aux exigences de performance. Mobilisant donc la notion de cancer évitable, ces campagnes de prévention laissent dans l'ombre d'autres facteurs très présents et finalement évitables, les cancérogènes présents dans le monde du travail et auxquels sont confrontés des milliers de salariés. En effet, selon l'étude SUMER, comme surveillance des risques professionnels, dont Nathalie a déjà parlé la séance précédente également, une étude menée par des médecins du travail sous l'égide du ministère du Travail, 11% des salariés en moyenne, des secteurs publics et privés, le terme salarié est ici utilisé aussi pour les agents, sont exposés à au moins un cancérogène dans leur activité habituelle de travail. Et j'insiste sur le terme habituel, il ne s'agit pas ici d'une situation accidentelle. En augmentant la focale, en y regardant de plus près, on voit apparaître de très fortes inégalités d'exposition. Selon la catégorie socio-professionnelle, comme l'a montré tout à l'heure Nathalie, selon les familles professionnelles, ainsi lorsqu'on est ouvrier qualifié de l'industrie automobile, de la réparation automobile, 90% de ces ouvriers sont exposés à des cancérogènes. Selon le statut d'emploi, là on voit que les intérimaires sont majoritairement, massivement exposés à des cancérogènes parmi les autres statuts d'emploi. Et c'est pas, enfin je reparlerai de l'intérim tout à l'heure, c'est pas totalement un hasard. Selon l'âge aussi, et ici on peut s'inquiéter de la plus forte proportion de moins de 25 ans exposés à des cancérogènes au regard de la moyenne. De nombreuses études montrent que plus on est exposé jeune à des cancérogènes, plus le risque de contracter un cancer est important. Et en fait, des inégalités d'exposition selon le sexe aussi. Je ne développerai pas ici, mais ça rejoint ce dont parlait tout à l'heure Nathalie Bajos sur l'ignorance épidémiologique des métiers féminins et des secteurs féminins. Enfin, on mesure aussi dans cette étude l'importance de la polyexposition, c'est-à-dire l'exposition simultanée ou successive à différents cancérogènes, une configuration qui démultiplie le risque de contracter un cancer. Donc vous voyez en haut, parmi les 11% de salariés à au moins un cancérogène, 72,4% le sont exposés à plusieurs. Voici une illustration particulièrement parlante de cette situation de polyexposition à partir de l'analyse d'un parcours professionnel mené par le GISCOP, d'un homme que l'on voit ici exposé dès sa période d'apprentissage et tout au long des différentes activités exercées. En 9 postes de travail, 17 cancérogènes ont été identifiés. Donc on voit bien la puissance de la polyexposition dans des parcours de travail de salariés exposés. Je me suis donc intéressée dans mes travaux à comprendre les ressorts de l'invisibilisation des cancers professionnels. Mais avant ça, je précise que le cancer est une maladie donc qui résulte d'un processus qui peut être très long après les premières expositions, que les cancérogènes, comme l'a dit aussi Nathalie, agissent à effet différé au terme d'un long temps de latence. C'est 20, c'est 30, mais c'est jusqu'à 50 ans après les dernières expositions. Et que le cancer est en effet une maladie multifactorielle. Et je voudrais souligner qu'il reste impossible, scientifiquement et médicalement, de distinguer un facteur sur l'autre dans sa survenue. Il n'est pas possible, dans le cas, par exemple, d'une femme qui a été exposée à l'amiante et qui a fumé, et qui est atteinte d'un cancer du poumon, de distinguer dans son cancer du poumon qui de l'amiante ou qui du tabac est responsable ou le plus responsable de la survenue de ce cancer. Donc je me suis intéressée dans mes travaux à comprendre les ressorts de l'invisibilisation de ces cancers et je l'ai fait à partir d'une enquête que j'ai menée au sein du GISCOP 93, le groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle en Seine-Saint-Denis, à l'Université Sorbonne Paris-Nord, un dispositif de recherche-action dont les membres ont largement contribué à alimenter la bibliographie dont tu as parlé, Nathalie, sur les maladies professionnelles. J'ai bénéficié pour cette recherche qui combinait une approche historique et une approche ethnographique d'un financement de l'Institut National du Cancer. Et dans l'approche ethnographique, j'ai notamment pu accompagner, dans leur démarche d'accès au droit de la réparation, durant 7 ans, près de 200 salariés ou retraités atteints d'un cancer du poumon, plus marginalement de la vessie, dans leur accès au droit de la réparation aux maladies professionnelles. Et c'est c'est ainsi que j'ai pu identifier en situation plusieurs ressorts de cette invisibilité. Ça a donné lieu à une publication. J'ai pu rendre compte de mes travaux dans cette publication. Et je ne vais retenir ici que certains de ces facteurs pour montrer la diversité des échelles, des espaces et des acteurs concernés pour comprendre les ressorts de cette invisibilité. Alors tout d'abord, les données publiées tous les ans par la branche risque professionnel de l'assurance maladie, cette fameuse branche AT-MP dont parlait Nathalie, sont l'un des premiers facteurs de cette invisibilité sociale. Je m'explique, dans le cas des cancers, les données de l'assurance maladie disent qu'en 2023, 1452 cas de cancer ont été reconnus en maladie professionnelle, et la majorité sur l'amiante. L'amiante reste ici l'arbre qui cache la forêt des autres cancérogènes. Je pense ici à un mécanicien atteint d'un cancer de la vessie pour lequel il n'aurait jamais imaginé d'origine professionnelle, quand bien même il a été exposé à de nombreux toxiques en lien avec cette localisation, qui m'explique « j'aurais eu un cancer du poumon, j'aurais bien pensé à l'amiante, mais pas là, pas avec la vessie ». Cette représentation des cancers professionnels principalement dus à l'amiante, elle repose tout à la fois sur l'existence d'une maladie dite signature de l'amiante, le mésothéliome, sur l'importante mobilisation sociale des victimes de l'amiante et sur l'éclosion de tout un ensemble de droits spécifiques aux victimes de ces expositions, notamment une retraite anticipée et un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui offre une réparation intégrale des préjudices comme devant un tribunal, et donc plus rémunérateur que la maladie professionnelle, et dans un contexte de polyexposition, les tableaux amiantes sont alors privilégiés. Vous voyez quand même qu'il existe, vous ne le voyez pas, mais je vous le dis, il existe 26 tableaux dans lesquels s'inscrivent des cancers, en lien avec divers localisations, et une dizaine de substances toxiques. Mais surtout, ce petit nombre de cancers reconnus est très en deçà des estimations épidémiologiques les plus consensuelles, selon lesquelles 4 à 8% des nouveaux cas de cancer seraient d'origine professionnelle, donc jusqu'à 34 644 cas par an. Alors, il y a une petite cacophonie avec les données fournies par le rapport dont parlait Nathalie, mais on pourra s'en expliquer tout à l'heure dans le débat si vous le souhaitez. En tout cas, ça prouve bien qu'il y a une fragilité aussi des chiffres. Ces données donc entretiennent à elles seules l'invisibilité des cancers du travail selon un phénomène un peu circulaire. Moins il y a de cancers professionnels reconnus, moins les personnes atteintes de cancer seront en mesure de penser le lien entre leur travail et leur maladie, moins elles le déclareront en maladie professionnelle. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Ces données du nombre de cancers reconnus ne disent rien du nombre de cancers effectivement liés au travail, et au contraire, elles offrent une loupe déformante de la réalité des circonstances d'exposition professionnelle. Nathalie a beaucoup parlé des tableaux, donc effectivement la reconnaissance des cancers du travail en maladie professionnelle s'opère majoritairement par l'intermédiaire d'un tableau de maladie professionnelle, et vous pouvez lire ici la définition qui en est faite par le Code de la Sécurité sociale. Et un tableau, comme l'a dit Nathalie, hein, relie une maladie à tout un ensemble de critères, un agent dans le titre, une durée d'exposition, un délai de responsabilité pour le dernier employeur ayant exposé la personne à cette substance et une liste d'activités, le plus souvent limitative dans le cas des cancers. Donc à condition que la situation de la personne malade corresponde en tout point à tous ces critères, elle bénéficie d'une présomption d'origine professionnelle en échange d'une réparation, d'une indemnisation qui n'est que forfaitaire. Donc, comme l'a dit Nathalie, et je le redis un petit peu, le contenu de ces tableaux est le résultat de négociations entre représentants de syndicats de salariés et représentants de syndicats d'employeurs, autrement nommés partenaires sociaux. Et quand je dis négociations, il s'agit de rapports de force qui s'exercent sur chacun des mots choisis, sachant qu'un terme peut ouvrir les conditions de reconnaissance et un autre les fermer. Je voulais aussi vous inviter à voir que ces tableaux sont des objets du droit, mais c'est des objets mouvants du droit, puisque vous voyez qu'il y a des dates de création et des mises à jour, et donc ces données de la réparation, elles sont aussi dépendantes de ces mises à jour de tableaux. C'est-à-dire que vous pouvez, à certains moments, je m'éloigne un tout petit peu des cancers, hein, vous pouvez voir que la courbe de la reconnaissance des troubles musculo-squelettiques, par exemple, baisse. Ça peut vouloir dire que la prévention est meilleure, mais ça peut aussi vouloir dire que le tableau a changé et s'est fermé. Il y a eu des critères plus restrictifs. Donc, en gros, tout ça pour vous dire que ces données sont extrêmement fragiles et qu'elles ne disent rien des effets réels du travail sur la santé. Donc, il est important de préciser ici et de le garder en tête que la maladie professionnelle n'est pas une catégorie médicale. On parle en général d'une catégorie médico-administrative. On peut parler d'une catégorie juridico-politique. Il s'agit d'une maladie négociée, pour reprendre les termes de l'historien Paul-André Rosenthal dans ses travaux sur la silicose. Donc, sans surprise, et Nathalie l'a dit aussi, alors je vous montre juste un autre tableau de cancer pour vous montrer l'état du titre, hein. C'est-à-dire que celui-ci, voilà, c'est assez simple, hein. Là, je vous montre le titre d'un cancer de la vessie en lien avec les amines aromatiques qui sont notamment contenues dans les colorants, mais pas que. Et là, vous voyez qu'il faut quand même avoir un bac plus 12 en chimie pour arriver à relier son travail à ce cancer de la vessie. Alors, sans surprise, la prise en compte des cancers et des cancérogènes dans les tableaux est très en deçà des connaissances scientifiques. Nathalie a cité tout à l'heure le rapport de l'ANSES, qui rend compte d'un travail attentif d'examen des tableaux existants et, dans le cas des cancers, repère de nombreuses lacunes. Sans parler des connaissances qui sont non construites sur le caractère cancérogène ou non de milliers de molécules chimiques présentes dans le monde du travail et de leurs effets cocktails qui ne sont pas encore suffisamment étudiés. Alors, je vous propose là une rapide incise sur le cancer du sein pour mesurer combien l'inscription d'un cancer dans un tableau de maladie professionnelle peut en modifier la perception et peut modifier les orientations des politiques de prévention. Le cancer du sein, c'est le premier cancer chez la femme et la première cause de décès par cancer chez les femmes. C'est une incidence en augmentation et c'est des femmes jeunes qui sont de plus en plus touchées. Et ce qui est mis là en avant encore dans les campagnes de prévention, ce sont les comportements et l'âge. À l'appui d'une solide documentation scientifique, établissant le lien entre cette localisation cancéreuse et plusieurs facteurs cancérogènes, le travail de nuit posté, les rayonnements ionisants, près de 200 produits chimiques présents dans le monde du travail, les mineurs CFDT de Lorraine ont été à l'initiative d'une recherche-action qui a permis de rendre visible le facteur professionnel dans cette épidémie, De premières reconnaissances ont ainsi été obtenues, souvent devant les tribunaux, et la construction d'un tableau devrait être bientôt en discussion devant les partenaires sociaux. Vous voyez comment, d'un cancer du sein dit féminin, d'un cancer du sein qui est accroché à une certaine fatalité, à l'idée qu'on a eu une mauvaise hygiène de vie, finalement, se révèle, se dévoile l'idée que finalement 200 produits chimiques peuvent être en cause dans la survenue de ce cancer du sein. Alors s'il existe un phénomène important de sous-déclaration, c'est d'abord de non-déclaration qu'il s'agit. Nathalie l'a rappelé, à la différence de l'accident du travail qui doit être déclaré par l'employeur, c'est à la victime, à la personne atteinte d'une maladie qu'elle estime professionnelle, qu'il revient de faire les démarches pour solliciter la reconnaissance en maladie professionnelle. Or, pour la plupart des personnes concernées, le cancer du travail est un impensé, d'autant plus dans le cas de cette maladie qu'elle survient des années après avoir été exposée, le plus souvent quand elles sont retraitées et donc à distance du travail effectué. L'origine de cette difficulté à relier sa maladie à son travail passé, j'identifie plusieurs facteurs très entremêlés les uns aux autres et je me focaliserai ici sur trois d'entre eux. Tout d'abord, le fait que la plupart d'entre eux, de ces personnes atteintes d'un cancer, de ces salariés, de ces retraités, aient ignoré avoir été exposés à des substances cancérogènes. Et quand je dis ignorer, cela peut prendre plusieurs formes. Par exemple, dans le cas de l'amiante, ils ont pu ignorer, au cours des années 80, que l'amiante était cancérogène. Mais ils peuvent, aujourd'hui encore, ignorer avoir été exposés à de l'amiante. Je pense par exemple à un cadre commercial, tout juste retraité, à qui son pneumologue diagnostique un cancer du poumon en mentionnant la présence de fibres d'amiante dans ses poumons. Il est alors tombé de l'armoire, pour reprendre ses termes, convaincu de n'avoir jamais été en contact avec ce matériau, et c'est au terme d'une reconstitution systématique de son parcours professionnel et d'une recherche sur Internet qu'il a pu réaliser qu'il y avait été exposé lors de ses premières années de vie professionnelle, alors qu'il était vitrier, et qu'il pétrissait d'importants volumes de mastic avec une poudre verte, un durcisseur, identifié sur Internet comme étant une poudre amiantée à l'époque. L'ignorance est encore plus grande pour les autres cancérogènes, autres que l'amiante. Les cancérogènes, je fais juste une incise, peuvent être des substances, mais aussi des fumées, des produits de dégradation, des mélanges, et peuvent être des conditions de travail elles-mêmes, comme le travail de nuit, et peuvent être aujourd'hui des toxiques interdits comme l'amiante, mais pourtant encore bien présents. Et je pense là à une enquête qui a été réalisée par l'INRS auprès de plombiers, d'artisans plombiers, qui n'avaient pas conscience d'être encore exposés à l'amiante dans leurs travaux, et on leur a fait porter un badge. Et ce badge a révélé que 40% d'entre eux étaient encore exposés à de l'amiante dans leurs interventions en plomberie sur le bâti d'avant 1997. L'amiante est bien présente dans le bâti d'avant 1997, dans les installations de chaufferie, dans les installations en plomberie. La plupart de ces cancérogènes sont imperceptibles, d'où la difficulté de réaliser le lien entre son travail et sa santé. Et je vous donne par exemple l'exemple emblématique des rayonnements ionisants. En l'absence d'un outil technique, d'un dosimètre, vous ne pouvez pas savoir y être exposé. Et ils sont aussi imperceptibles parce que leurs effets sont différés. Alors, s'il est aussi difficile pour les personnes de faire le lien entre leur cancer et leur travail, c'est aussi parce que plusieurs des personnes enquêtées avaient le sentiment d'avoir été protégées. Protégées parce qu'elles imaginent que, sauf situation accidentelle, tout est maîtrisé dans l'entreprise. Et que si l'usage de ces substances était réellement dangereux au point d'en être mortel, je parle ici par exemple du cancer du poumon qui est encore de pronostic sombre, cela aurait été interdit selon elles. Au point que lorsqu'elles sont reconnues en maladie professionnelle au terme d'un long parcours, certaines d'entre elles peuvent ressentir un moment de sidération en découvrant que non seulement ces toxiques n'étaient pas interdits et qu'il était même prévu par le droit que la maladie, et donc la mort, puisse survenir puisqu'une indemnisation est prévue à la fin. Elles peuvent également se sentir protégées par des dispositifs qui ne jouent pas ce rôle, qui n'ont pas été créés pour jouer ce rôle, mais qui peuvent donner l'illusion de le faire. Je pense ici à trois d'entre eux. D'abord, les valeurs limites d'exposition professionnelle. Parce que ces salariés ignorent que ces valeurs limites d'exposition professionnelle sont le fruit de compromis sociaux, tout comme les tableaux, ils s'estiment protégés lorsqu'elles ne sont pas dépassées. Or, la plupart des cancérogènes sont sans effet de seuil. Il n'existe pas de seuil en dessous duquel il n'existe pas de risque de contracter un cancer. La surveillance médicale renforcée ou surveillance individuelle renforcée est une autre forme de confusion. Je pense ici à un ouvrier usineur dans une entreprise de graphite, décédé à 45 ans d'un cancer pulmonaire. Sa veuve m'explique qu'il crachait ce mouchet noir, que des fibres de graphite sortaient de ses doigts, que les cahiers d'école de ses filles en étaient tachés. Elle me raconte, je lui disais « Quitte ce boulot, il va te rendre malade ». Il me disait « Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle, je suis suivie médicalement ». Et elle a eu cette phrase « Il pensait qu'on le protégeait, en fait on l'endormait ». Et cette surveillance médicale, qui est paradoxalement réservée aux salariés particulièrement exposés, elle peut détecter précocement un souci de santé, elle ne protège en rien. Mais c'est là aussi une confusion autour des termes, prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire, et seule la substitution d'un produit cancérogène à un autre qui ne le serait pas, en l'occurrence, est une forme de prévention et de protection. Et enfin, les équipements de protection individuelle, le dernier recours normalement, peuvent, et on le comprend, laisser croire que l'on est protégé. Mais là encore, plusieurs travaux ont montré qu'ils n'étaient pas toujours efficaces. On a beaucoup d'études dans le cas des pesticides, notamment par l'équipe de Alain Garrigou à Bordeaux, mais aussi dans le cas des masques des désamianteurs qui ne protégeraient pas des fibres courtes. Et puis certains équipements peuvent brouiller les pistes, comme l'a montré par exemple Jean-Noël Jouzel dans ses travaux sur les éthers de glycol. Dans l'industrie des semi-conducteurs par exemple, l'usage de gants jetables en latex par les salariés travaillant en salle blanche renforce l'image d'une industrie propre, alors même que ces gants sont d'une médiocre, voire d'une totale inefficacité contre les éthers de glycol. Ils ne sont pas là pour protéger la santé des salariés, ils sont là pour protéger les composés électroniques de toutes les impuretés. Mais quand on porte des gants, on peut se penser protégé par ces gants. Donc si des salariés ou anciens salariés ne s'engagent pas dans les démarches de reconnaissance, c'est aussi qu'ils n'en voient pas toujours l'intérêt. L'horizon indemnitaire qui leur est proposé ne fait pas toujours sens. D'une part, le montant proposé, au mieux et dans la pire des situations, et il faut le dire, c'est-à-dire au mieux et dans la pire des situations, c'est-à-dire l'extrême gravité d'un cancer des poumons, ne peut dépasser le montant mensuel des derniers salaires. C'est ça une indemnisation en maladie professionnelle. Mais c'est le plus souvent bien moins qui est proposé à ces victimes du travail, et pas assez pour devenir moteur d'engagement. La FNAT, la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et de la Vie, est à l'origine d'un livre blanc sur l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles vers lequel je peux vous renvoyer et qui montre l'écart énorme entre cette réparation forfaitaire et ce qu'obtiendrait une victime devant un tribunal. C'est pas assez pour devenir un moteur d'engagement, et d'autant qu'il existe un dispositif concurrent et parfois plus avantageux, celui de l'invalidité, vers lequel ils sont facilement orientés par les intermédiaires sociaux, que sont notamment les assistantes sociales et les médecins du travail, qui estiment, à raison souvent, que le parcours d'accès sera alors plus facile et plus rémunérateur. Mais cette stratégie contribue largement à rendre invisibles les effets du travail sur la santé et donc les cancers professionnels. Et elle socialise le coût de ces maladies à l'ensemble de la collectivité, alors qu'elle devrait être prise en charge par la branche risque professionnel, financée, elle, uniquement par les employeurs. Je rappelle que le dispositif de réparation organisé en 1919 avait pour ses promoteurs l'objectif de favoriser la prévention par la sanction financière des employeurs. Ainsi, l'un des rapporteurs de la commission d'hygiène industrielle au moment des débats sur cette loi de 1919 pouvait croire que cette loi ferait plus pour l'hygiène des ateliers que tous les règlements et tous les inspecteurs du travail. Quand cela coûtera de tuer les hommes, quand cela élèvera le prix de revient, on n'en tuera plus. C'est manifestement un échec, comme l'a rappelé Nathalie, en montrant le taux de sous-déclaration de la plupart des maladies professionnelles. D'autre part, comme les travaux sur la sociologie de l'argent ont pu le montrer, et je renvoie ici aux travaux de Viviane Zelizer aux États-Unis ou Jeanne Lazarus et Damien Deblic en France, loin d'être neutre et sans odeur, l'argent revêt des significations différentes selon son origine et ses destinations. Or, rien n'est dit. Rien n'est indiqué sur les sites institutionnels. Ici, je vous montre Service Public et le site Amélie. Rien n'est dit sur le financement spécifique des maladies professionnelles. Tout est présenté comme une démarche assez technique, administrative. Donc, on fait perdre du sens à cette démarche. Et on fait perdre le sens que c'est une façon de prendre, enfin de payer. C'est comme le dispositif pollueur-payeur. Et parce qu'ils ignorent cette configuration, certaines personnes atteintes d'un cancer ne veulent pas déclarer. Ainsi, ce peintre en bâtiment, qui estime déjà coûter très cher à la Sécu avec son traitement de chimiothérapie, et dit ne pas vouloir coûter davantage à la Sécu, puisqu'il ne pas vouloir creuser le trou de la Sécu. Mais aussi cette ancienne ouvrière d'une usine d'abrasives, atteinte d'un mésothéliome, le cancer au pronostic le plus sombre, qui me dit sa honte, elle qui n'a jamais rien demandé, assimilant cette démarche à une demande d'aide sociale, faute d'en connaître le sens et qui lui était précisé. Son mari lui-même était opposé à cette démarche, la vivant comme une remise en cause de son engagement comme mari, en mesure d'assurer financièrement la charge de la famille. Autre situation, quand la personne est malheureusement décédée, l'argent dont une partie revient à l'ayant droit peut brûler les doigts, comme l'explique cette veuve. Et l'historienne Marion Fontaine a largement évoqué ces femmes stigmatisées comme veuves joyeuses dans un milieu d'interconnaissance très fort comme les villes minières, joyeuses d'avoir touché de l'argent suite à la mort de leur mari dans un accident minier quand elles auraient dû être des veuves pleureuses. Donc vous voyez comment la question de l'indemnisation, c'est pas juste un moteur, ça peut parfois être une entrave faute que ne soit donné du sens à cette question de l'indemnisation. Alors, autre acteur qui joue un rôle déterminant dans la sous-déclaration, le corps médical. Le droit de la réparation lui confère en effet un rôle central, celui d'interroger l'éventuelle origine professionnelle d'une maladie et surtout celui de rédiger le certificat médical sans lequel il n'est pas possible de déclarer. Et le médecin est ainsi mis en situation, bon gré mal gré, consciemment ou inconsciemment, en situation d'autoriser ou d'interdire la démarche d'accès aux droits des patients. Dans les faits, très peu s'acquittent de ces obligations. Déjà, dans l'ensemble, les médecins interrogent très peu les activités exercées et encore moins les conditions de travail. Je mets à l'écart les médecins du travail, qui sont les médecins spécialisés sur ces questions-là. Dans l'enquête que j'ai menée, la plupart des personnes que j'ai accompagnées ont été diagnostiquées très tardivement de leur cancer du poumon. Faute de s'être intéressées à leur travail, par exemple manœuvre dans le BTP ou fondeur ou ouvrier fondeur, et face à une toux chronique ou un mal de dos persistant, ces médecins n'ont pas prescrit dans l'éventail de leurs possibilités de scanner qui aurait permis de dépister précocement la tumeur. Et c'est souvent aux urgences hospitalières que le diagnostic tardif a été posé. Ensuite, ils sont effectivement très peu formés sur ce volet très spécifique du droit de la sécurité sociale. Environ une dizaine d'heures sur leurs dizaines d'années d'études et encore à un moment où, externe, ils n'ont pas encore les mains dans le cambouis pour reprendre les termes de l'un d'entre eux. Et puis, formés à la recherche d'une causalité médicale, ils appréhendent avec beaucoup de circonspection cette catégorie médico-administrative. Faute de comprendre, faute de connaître le compromis social à l'origine des tableaux, et face à des patients fumeurs, par exemple, ils sont nombreux à refuser de s'engager dans la rédaction d'un certificat pour un cancer du poumon ou de la vessie, ignorant de la présomption d'origine ou ne voulant pas l'admettre. Et là, on a tout un ensemble de témoignages de ces personnes atteintes de cancer du poumon ou de la vessie qui vont dire les phrases dites par leur médecin, les renvoyant à leur responsabilité de fumeur. Vous les déclarez en maladie professionnelle, c'est une façon de ne pas prendre vos responsabilités. Vous voulez, madame, déclarer la maladie de votre mari décédé, c'est une façon de vouloir toucher de l'argent. Donc il y a quelque chose aussi d'assez compliqué dans cette relation avec certains médecins. Je passe rapidement, pour avoir le temps, sur les autres motifs qui expliquent le faible engagement du corps médical à explorer la responsabilité du travail dans l'état de santé de leurs patients. Pour pouvoir finir dans les temps, je dirais juste que ce certificat, le CMI, il faut bien avoir en tête que c'est un espace de conflit, puisque l'instruction qui va être menée par la Caisse primaire d'assurance maladie va être menée selon le principe du contradictoire, c'est-à-dire la parole de la victime et la parole de l'employeur. Et que ce certificat, s'il n'est là que pour évoquer une hypothèse professionnelle, est souvent saisi comme étant la preuve que le médecin s'engage à dire que c'est professionnel. Et il y a l'exemple de plusieurs médecins qui ont pu être convoqués devant le Conseil de l'Ordre à la demande de certains employeurs pour justifier de ce qu'ils n'auraient pas vu et de ce dont ils parlent. Donc il y a tout un enjeu autour de ce certificat-là. Le fait même de s'appeler certificat pose un problème à certains médecins. En gros, on leur demande de certifier le diagnostic, mais comme ça s'appelle certificat médical en maladie professionnelle, ils ont l'impression qu'on leur demande de certifier l'origine professionnelle de la maladie, alors que c'est à la caisse de le faire. Et ce certificat, ça les éloigne beaucoup de leur cœur d'activité qui est le soin. Ce certificat, il peut être amené justement dans toutes les étapes du contentieux, devant les tribunaux. Et beaucoup de médecins n'aiment pas trop que ces certificats médicaux deviennent des enjeux devant les tribunaux. Ça les déplace fortement de leur cœur d'activité. Alors j'en viens maintenant à l'épreuve des preuves et aux fortes inégalités qui apparaissent dans l'accès à la reconnaissance en lien notamment avec les transformations du travail. Donc le tableau de maladie professionnelle offre une présomption d'origine, mais ses contours sont très limités, comme je vous le montre dans ce graphique, et n'exemptent pas finalement le salarié ou retraité de devoir, pour avoir une chance de voir son dossier aboutir, apporter une série de pièces à son dossier, pour encore plus lorsque sa pathologie ne figure pas dans un tableau. Il faut apporter des preuves de la maladie, le diagnostic ne suffit pas, il faut ajouter des comptes rendus d'examen qui objectivent le cancer et sa localisation primitive, comme l'examen anatomopathologique. Il faut amener des preuves de l'emploi, puisqu'il s'agit d'identifier l'employeur ou les employeurs responsables, puisque c'est sur leur compte que va être imputée la maladie s'il est reconnu. Donc il faut détenir ses certificats de travail, voire ses fiches de paye, et les avoir conservées au-delà de la retraite, ce qui est assez rare, puisque les agents de la caisse de retraite disent eux-mêmes qu'une fois la retraite liquidée, c'est des papiers dont on peut se séparer. Et parmi les personnes que j'ai accompagnées dans leur accès au droit, cela a pu représenter une vraie difficulté. Et pour certains, ce sont des années de travail exposées qui n'ont pas été prises en compte dans l'instruction de leur dossier. Et enfin et surtout, il faut être en mesure d'apporter les preuves de l'activité habituelle de travail, de l'activité exposante, jusqu'à 40 ans en amont de la survenue de la maladie. Il existe en effet des écarts entre ce qui est mentionné sur le certificat de travail et l'activité exercée. Alors les ergonomes ont massivement documenté l'écart qui existe entre le travail prescrit et l'activité réelle de travail et ont montré comment un même emploi de maçon pourra donner lieu à des activités très différentes. Un emploi de vendeuse ne dira rien de son activité de nettoyage, pourtant très exposant, nettoyage des vitrines et des sols, des objets mis à la vente. Donc cette capacité à pouvoir faire preuve des activités exposantes est très inégalement distribuée. Elle est plus ou moins facilitée pour des salariés qui ont bénéficié d'une stabilité professionnelle dans la même entreprise ou dans le même secteur d'activité. Pour des salariés qui peuvent compter sur un réseau syndical ou de retraités dynamiques. Je pense aux mineurs de Lorraine notamment, aux verriers de Givors, aux dockers de Nantes-Saint-Nazaire, aux ouvriers des chantiers navals de La Ciotat. Pour cela, le collectif est d'un précieux secours qui permet même de construire, de reconstruire des cartographies d'exposition en fonction du poste occupé de la période concernée et de pouvoir bénéficier de témoignages de collègues. Mais c'est bien plus dur pour des salariés isolés, pour ceux et celles qui ont connu des parcours très morcelés. Et dans nos enquêtes du GISCOP, on a jusqu'à 35 employeurs, jusqu'à 40 employeurs pour certains. C'est bien plus dur pour les salariés des entreprises sous-traitantes qui sont tout à la fois parmi les plus exposés et les moins reconnus en maladie professionnelle. Et je veux juste dire un mot rapide de cette transformation majeure du travail depuis la légalisation de la sous-traitance dans le milieu des années 70. Plusieurs travaux ont documenté comment cela avait représenté pour les employeurs une occasion de contourner leurs obligations contenues dans le Code du travail et qu'ils avaient ainsi externalisé des activités qui étaient les plus pénibles et les plus exposantes, notamment l'entretien, le nettoyage et la maintenance, contribuant ainsi à renforcer l'invisibilité des effets du travail sur la santé. On parle alors d'une sous-traitance des risques, à l'instar des nomades du nucléaire chargés de la maintenance des centrales, bien étudiés par Annie Beaumoni et Marie-Guis Malfilâtre. On parle même d'une extraterritorialisation dans le cas des migrants, travailleurs agricoles saisonniers étudiés par Frédéric Decosse, souvent affectés aux traitements chimiques, là où les risques toxiques sont les plus importants, mais dont la maladie, si elle survient, ne sera pas visible en France ni reliée au travail. C'est bien plus dur également pour les intérimaires, dont les certificats de travail et les fiches de paie ne disent absolument rien du site sur lequel ils ont travaillé auprès de l'entreprise utilisatrice et pour lesquels il est particulièrement ardu de reconstituer les multiples activités exercées. Faut que je m'arrête à midi, c'est ça ?
Oui, vers midi, oui.
Alors, je finis rapidement pour dire que, par ailleurs, l'enjeu de ces preuves est d'autant plus important que la traçabilité institutionnelle des expositions est lacunaire. Et j'emprunte ici à la revue Référence en santé au travail publiée par l'INRS ce schéma qui, mieux qu'un long discours, rend compte de la valse des réglementations qui empêche de stabiliser un dispositif institutionnel garantissant une traçabilité rigoureuse dans le temps des expositions cancérogènes. Vous voyez comment à chaque fois qu'on met en place un texte, en fait, on le modifie régulièrement jusqu'à ne plus avoir quelque chose qui permette de conserver des traces sur les 20, 30 ou 40 dernières années. En guise de alors ça, je l'ai rajouté rapidement parce que tu as parlé de ce qui se passe dans les caisses. Et je voulais juste te montrer que quand un assuré envoie son dossier à la caisse, ce qui se passe derrière. En fait, derrière, quand on dit les caisses font obstruction, les caisses, c'est pas des personnes. Mais derrière, il y a tout un ensemble d'acteurs et tout un ensemble de responsabilités. Et avec une série d'acteurs qui ne savent plus, qui ne connaissent plus le rôle qui leur est demandé de jouer. Je pense notamment aux inspecteurs du travail qui sont destinataires de toutes les déclarations maladie professionnelle, mais qui, pour beaucoup d'entre eux, ne savent plus quel rôle ils peuvent jouer en la matière dans l'instruction de ces dossiers. Donc je conclurai en m'interrogeant sur le caractère structurel de cette invisibilité des cancers professionnels. Donc j'ai montré que la non-déclaration et la non-reconnaissance dépendaient de plusieurs acteurs et étaient enchâssés dans des rapports de dépendance et de domination. En m'intéressant à la genèse de la catégorie cancer professionnel, j'ai pu être saisie d'un vertige à découvrir une certaine récurrence dans les obstacles à la construction de la connaissance. Le vertige de Nathalie datait de 1990. Je vais remonter bien plus loin, puisque la connaissance des effets cancérogènes du travail n'est pas nouvelle, et qu'au début du XXe siècle, alors que les débats scientifiques et médicaux portant sur l'origine des cancers sont légion, plusieurs thèses et théories se confrontent, ce qui fait alors consensus, c'est le rôle des produits chimiques dans la cancérogénèse. Sont ainsi bien identifiés dès le début du XXe siècle, documentés par des études dans plusieurs pays industrialisés, les cancers cutanés liés aux produits dérivés de la houille, une industrie en totale expansion, le cancer de la vessie en lien avec une autre industrie en totale expansion, celle des colorants, le cancer du poumon en lien avec les poussières, les cancers des rayons X, celui dit du radiologiste de la peau, et la leucémie. Gustave Roussy est même chargé par le Bureau international du travail et la Société des Nations de promouvoir en France tout à la fois des enquêtes et la reconnaissance des cas existants. Je vous laisse une publication de décembre 1927 où Gustave Roussy explique tout l'intérêt, l'importance au double point de vue prophylactique, donc prévention et médico-légale, de la reconnaissance de ces cancers professionnels. Dès le premier bilan d'application de la loi de 1919, il est établi que les médecins ne jouent pas le rôle que le droit leur confère. Le constat est répété depuis cette date, tout au long du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, dans les rapports administratifs sur la sous-déclaration et dans le dernier rapport dont tu as parlé, Nathalie. Je vous montre ici deux affiches publiées en 1938 dans le contexte du Front populaire, qui sont l'un des multiples rappels à la responsabilité des médecins. Toutes les maladies professionnelles doivent être déclarées, donc les indemnisables comme les non-indemnisables, et indiquez votre métier à votre médecin, dites-lui les produits manipulés, insistez pour qu'il déclare les maladies professionnelles indemnisables ou non. Ce qui s'envisageait au départ pour les promoteurs de cette loi comme un dispositif de veille sanitaire est alors un échec. Tout comme reste un échec, en échec, la possibilité de relier les causes de décès à l'activité professionnelle. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer rapidement la répétition dans le temps de cette volonté de construction de connaissances des liens entre travail et cancer, travail et santé, qui se heurte à l'absence de données. Les données sur le cancer sont elles-mêmes incomplètes. Elles ne sont que des estimations construite sur la base de registres qui couvrent moins d'un quart de la population en France. Je vous montre là les zones qui, en France, sont couvertes par les registres du cancer, à la différence des 22 pays européens où on a déjà des registres nationaux sur le cancer. Donc en juin 2023, le Sénat a voté une proposition de loi consistant à créer un registre national des cancers, une étape indispensable pour consolider la connaissance sur l'incidence, la prévalence et la mortalité face au cancer. De l'avis même de la sénatrice rapporteure de ce projet, la population couverte aujourd'hui par l'activité des registres représente quelques biais. Elle est en moyenne plus rurale, relativement plus âgée, légèrement plus favorisée, et les personnes d'origine étrangère y sont moins nombreuses que dans le reste de la population. De même, la moindre représentation des zones urbaines conduit à une moindre représentation des zones susceptibles de connaître de fortes expositions à des pollutions environnementales ou à des sources d'exposition multiples. Une journaliste du Monde s'est d'ailleurs intéressée en 2019 à superposer la carte des registres du cancer à celle des sites Céveso O, c'est-à-dire les plus polluants. Comme on le voit, les départements les plus concernés par les sites Céveso n'étaient pas couverts par les registres. La Moselle, la Seine-Maritime, les Bouches-du-Rhône. C'est à la fin de ce mois de juin que l'Assemblée nationale examinera ce projet de loi, déjà voté par le Sénat il y a 2 ans. Et je conclurai en disant que si l'attention n'est à cet endroit pas portée sur les facteurs professionnels des cancers, leur invisibilité ne sera pas levée. La fabrique des non-problèmes, ou comment éviter que la politique s'en mêle, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Emmanuel Henry, pourra se poursuivre. Et c'est une question qui pose la question de la valeur différentielle des vies qui est ici posée. Et c'est une question de justice sociale, comme le rappelait Nathalie Bajos tout à l'heure. Et je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.